commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Seigneur, merci pour cette joie qui est la nôtre à cette heure. Merci pour nos cœurs qui se fondent comme la cire au contact des rayons solaires. Merci pour cette joie indescriptible que nous ressentons. Et pourtant cette louange et même cette adoration sont marquées du sceau de l'imperfection. Et nous pouvons que nous poser la question, que sera-ce donc en ces jours-là quand nous aurons revêtu la perfection et que nous allons t'adorer, t'exalter, te louer avec les saints anges. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce matin, aide-moi à tout manquer et à ne pas manquer les noces de l'agneau. Aide-moi à ne pas être invité à la plus grande fête organisée par les personnages les plus importants du monde. Mais aide-moi à ne pas manquer ces grands rendez-vous. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. Certes, il est dit que les morts en Christ nous précéderont. Mais la Bible dit aussi que nous aussi, nous serons changés. Et nous serons avec celui que nous avons connu sans connaître. Et j'aime quand Paul le dit, nous les connaîtrons tels que nous avons été connus nous-mêmes. J'attends ces jours. Je prie qu'il arrive. Mais en attendant qu'il arrive, Seigneur, garde-nous dans la crainte de toi et aide-nous au travers de la prédication à préparer ton peuple à ces grands jours. Au nom de Jésus. Amen. La fois dernière, nous avons parlé de la parabole du grain de sénévé ou du grain de moutarde. Et ce dimanche, nous allons parler sur la parabole du blé et des livrées. Matthieu 13, 24 à 30 et puis 36 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Le terme il leur proposa dans l'original dit il mit à côté. Il avait déjà parlé d'une parabole, mais il met une autre parabole à côté. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison verte lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Verset 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parabole, comme celle étudiée la semaine dernière, fait partie des paraboles dites du royaume, c'est-à-dire celles qui expliquent les réalités attachées au royaume des cieux. Comment il marche, comment il fonctionne, quelles sont les choses qui sont attachées à cette réalité réelle, permettez-moi la tautologie, mais que l'on ne peut palper ou toucher. Si la semaine dernière, nous avons parlé de la parabole du grain de sénévé et nous avons vu le principe important attaché à cette parabole qui voulait dire que ce qui est grand ne commence jamais grand. Ce qui est grand commence d'abord par être petit. C'est pourquoi ne méprisons pas le faible commencement. N'ayons pas peur, n'ayons pas la crainte de commencer petit, car ce qui commence petit peut à la fin avoir un format plus grand que ce qui était au départ. Mais dans cette parabole, celle du blé et des livrets, Christ veut parler des choses ô combien importantes. Mais avant d'aller plus loin, il est bon que nous puissions mentionner ces trois choses. La première, c'est que cette parabole, on la retrouve principalement dans l'évangile de Matthieu et nulle part ailleurs. Dans l'évangile de Matthieu principalement. Deuxièmement, cette parabole, avec la parabole du semeur qui est sorti et qui a jeté la semence dans quatre terrains différents, est l'une des rares paraboles pour laquelle le Seigneur lui-même donne l'explication. Non seulement qu'il enseigne, mais il donne directement l'explication. Nous l'avons vu dans la fourchette allant du verset 36 jusqu'au verset 43. Non seulement qu'il donne la parabole, mais il l'explique aussi. De telle sorte que nous n'avons presque pas d'effort à faire. Troisièmement, cette parabole contient deux messages, pour ne pas dire deux leçons. Il y a un message principal qui est spirituel, qui est scripturaire, qui est doctrinal. Et puis il y a un message secondaire qui est pratique. Et nous allons essayer avec la grâce de Dieu de voir les deux leçons, les deux messages qui nous sont donnés. Dans le message principal, le maître veut dire aux croyants principalement trois choses. Il veut dire aux croyants, il n'y a pas que le bien, il y a aussi le mal. Il y a deux sources actives. Le bien travaille, mais le mal aussi agit. Il arrive des fois, nous sommes étonnés de voir le mal. Mais lui, il dit, le mal est bien présent. Deuxième leçon, deuxième message qu'il veut que les croyants puissent comprendre, c'est que le bien et le mal se côtoieront. Le bien et le mal seront côte à côte. Et j'aimerais le dire à ma déception, même dans la maison de Dieu, même dans l'église, le bien et le mal seront là. Si vous cherchez une église parfaite, vous ne la trouverez jamais. Église, ma problème est l'équi. J'aime ce qu'un aîné dans la foi, l'évêque Moukouna, a dit un jour. Si vous cherchez une église, il n'y a pas de problème, vous ne la trouverez pas. Parce que même dans cet environnement parfait, la Bible dit, il y a guerre dans les ciels. Là où tout était parfait, subitement il y a eu guerre. À combien plus forte raison? Alors, je ne dis pas que nous devons provoquer les problèmes, les entretenir et les arroser. Les problèmes, ça va exister. Troisième grande leçon, c'est que les travails de séparation du bien d'avec le mal, premièrement, ça sera l'œuvre de Dieu et lui seul. Il arrive des gens qui viennent se présenter en justicier, pour ne pas dire comme quand on était petit en Zorro, les gens qui veulent sauver le monde. Non, frère, il faut que tel manaïto, on a coupé sa jupe à la sœur. Notre part à nous, c'est de prêcher l'évangile. Le reste, c'est la part de Dieu. J'ai vu des jupettes devenir jupes par le travail de l'évangile. Je me souviens autrefois, nous étions à la jeunesse, un jeune homme qui est revenu de l'Europe avec tout ce qu'il y a comme différence culturelle. Il chantait avec nous, il aimait le Seigneur, mais il avait un problème, il avait les cheveux défrisés, il avait un chignon. Et il est très très spirituel, et TTS. Quand nous chantions, il levait les mains, quelqu'un disait que nous, Kitsaï m'a beaucoup, papa. Kitsaï m'a beaucoup. Trop de gens qui veulent prendre la place de Dieu. Ah, j'aime l'aîné qu'on avait dans la foi, il a dit laissez-les. On les voyait sincères, mais dans sa sincérité, il avait des connaissances limitées. Jusqu'à ce que je me souviens, trois mois après un samedi, oh étonnement. On arrive à la réunion de la jeunesse, on les voit coiffés. Et puis juste la réunion commence, il demande le micro, il dit, frère, pardonnez-moi pour le scandale que sûrement je vous ai causé. Il n'y a que trois jours que Dieu a travaillé dans mon cœur, j'ai compris qu'un même enfant de Dieu ne pouvait pas avoir ça. Pardonnez-moi. Et les gens ont dit, Alléluia. Laissez Dieu être Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais placé vice-dieu. Il y a des gens qui nous donnent l'impression, après Dieu, c'est eux. Donc quand ils nous voient, nous tous, nous embêtons, parce qu'on est entêté, laisse Dieu faire son travail. À son rythme, selon ses méthodes et selon son bon vouloir. Alléluia. La différenciation, ça sera l'œuvre de Dieu. Mais une deuxième chose importante, cela se fera en son temps. Il est dit, je le ferai à la moisson. Je ne le ferai pas avant. Seigneur, aide-nous. Ça, c'est le message principal. Mais le message secondaire que cette parabole veut nous enseigner, il veut nous apprendre à solutionner nos problèmes. Quand, comment, avec quelle méthode, ça nous le verrons plus loin. Mais il est important au début, pour bien comprendre cette parabole, il y a des détails qu'il nous faut mentionner, des détails sur lesquels il nous faut revenir. Le tout premier détail, c'est qu'il n'y a pas deux champs, il y a un seul champ, l'image du monde. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il y a un seul champ, il n'y en a pas deux. Ces champs ne veulent pas forcément dire l'assemblée ou l'église locale. Les champs ici ont l'idée du monde en général. On peut aussi quelque part l'adapter au corps de Christ, mais le corps mystique. Donc premièrement, il n'y a pas deux champs, il y a un seul champ. Deuxième chose, c'est que ces champs ont un propriétaire. Et un propriétaire qui a une vision, un projet par rapport à son champ. Il a dit un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il y a peut-être des présences étrangères que l'on va trouver. Il y aura peut-être une activité autre que celle du propriétaire. Mais le fait qu'il y ait l'autre activité n'exclut pas que c'est lui le propriétaire. Le fait qu'on voit quelqu'un d'autre qui soit actif, même très actif, n'exclut pas que c'est sa propriété. Les champs ont un propriétaire, et un propriétaire qui a une vision, un projet. J'aime ce que le verset dit, le verset 24, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Non seulement qu'il est propriétaire du champ, mais il a une vision, faire de bonnes choses. Il prend le temps de retourner la terre, et il choisit même la qualité de la semence. Je ne mettrai pas n'importe quelle semence dans mon champ. Puisque je veux des choses de qualité, je veux partir de quelque chose de qualité qui va produire aussi quelque chose et à une qualité proportionnelle. Il choisit une bonne semence. Dites avec moi une bonne semence. Il a pris soin de vérifier la qualité de ce qu'il allait semer. Troisièmement, il y a un ennemi. Et un ennemi actif. Qui réunit certes plusieurs caractéristiques, mais dont la principale est qu'il est réfléchi. Très réfléchi cet ennemi. Le verset 25 dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'éma délivré parmi les blés, et il s'en alla. Quand je dis il est réfléchi, j'aimerais dire il est profond. Il étudie ce qu'il va faire. Il s'est dit, quand vais-je le faire? Comment vais-je le faire? Qu'est-ce que je ne dois pas manquer pour avoir des résultats maximaux? Cet ennemi, c'est un planificateur. Il ne fait pas n'importe comment. Avant de faire, il prend le temps. C'est pourquoi la Bible l'appelle à plusieurs reprises le malin. Le terme utilisé et que Christ a souvent utilisé parlant du malin dans Matthieu 6 au verset 13, quand il fait la prière sacerdotale, il nous dit quand vous priez, dites délivrez-nous du malin. C'est-à-dire de celui qui est enclin à faire du mal et du tort à autrui, mais en utilisant l'intelligence et la réflexion. Quand il fait le mal, il est réfléchi. Quand il fait le mal, il est profond. Deuxièmement, malin veut dire qui est rusé, c'est-à-dire ingénieux, créatif, mais envie de faire du mal. Il a l'intelligence, il a la créativité, mais qu'il met au service du mal. Que des gens qui sont comme ça, ils réfléchissent sur la meilleure manière d'empoisonner quelqu'un. J'ai lu un livre des services secrets, comment on réfléchit, non, il faudra telle sorte d'ampoule. Vous mettez dans le bureau de votre ennemi, quand il allume, ça dégage des choses, et quand lui il respire, 3 mois après, les poumons sont partis. Et nul ne peut savoir faire la corrélation entre la lampe et ingénieux réflexion, mais attachée au mal. Malin veut dire aussi raffiné et habile dans la commission du mal. Raffiné, c'est un peu comme un restaurant 5 étoiles. On met toute chose à sa place. La décoration, tout est raffiné. Et le diable, il est raffiné dans le mal. Du reste, dans les jardins d'Éden, déjà parlant de lui, on dit qu'il était le plus rusé des animaux. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, Paul, parlant aux croyants de son époque, leur dit concernant les diables, « Ne laissons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » D'autres versions disent, « Nous n'ignorons pas ses projets réfléchis. » J'aimerais vous dire, le diable a un bureau d'études. Ou bah fan d'agana bah agent naï bah fan de boy tout ça en dernier tout bête à Roland d'allô qui s'embête. Ce qu'on lit balaye à tato tout ça en dernier nous porte tout panzayango. Ils sont prêts à faire des heures supplémentaires. Quelqu'un a dit, si le diable a des qualités, si on peut parler ainsi, la première qualité, c'est la patience. Quand il t'a tendu un piège 99 fois tu as sauté, la centième fois il viendra encore à sauter, tiens encore, la patience. Et deuxième qualité, c'est la foi, mais une foi négative. Même quand 99 fois ça n'a pas marché, il réfléchit, il dit tout, tiens, la centième, balo ego simba. Quelqu'un dit, le diable, quand il va à la pêche, il choisit les toutes sortes d'appâts. Il sait que oh yo chile mucho pio monaga. Il est terrible, le diable. Il agit un peu comme nous agissons avec les poules à la fin de l'année. La poule se rend compte que subitement les hommes deviennent bons. Autrefois, il était obligé de chercher sa nourriture. Et puis subitement, il voit des grains de riz. Bon, qu'il est changé, quoi. Il est comme un garaboy. Mais il n'a pas l'impression que les grains soient alignés. Et déjà, il y a la casserole, l'eau est en train de bouillir. On a déjà acheté les oignons. Au coin, là, quelqu'un est en train de l'attendre. Je me dis, fais attention, diable azo zelayo. Il utilise toutes sortes d'appâts. J'aimerais te dire, homme, le diable te connaît. Diable a yebi, yo poazo yo, o ya moan zoto mike, batambo la rabouana. Atal yo mousso abi, ye, yel n'y rabab, moi. Ye, so kotine li apembe, lo kote. A osambe la kote, au nom de Jésus, exalte. Mais tine la ebo anwa, komi ko bundan, kolo souva mo bunda yo. Ne laissons pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses projets réfléchis. Nous n'ignorons pas sa capacité à étudier, à analyser, à planifier des choses. Avant de faire des choses, le diable s'est dit toujours, que dois-je faire? Quand dois-je le faire? Quels sont les moyens adéquats et suffisants que je dois utiliser pour ne pas rater mon objectif? Quelle doit être la méthodologie? C'est pourquoi j'ai dit, la Bible l'appelle le malin. Et le verset 25 nous montre son côté réfléchi. En 3 choses, on voit les côtés réfléchis de cet ennemi. Premièrement, les camps de son action. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, il aurait pu venir à plein jour. Pendant que les gens dormaient. Ce qu'il veut, il ne veut pas être vu. Il vient de manière sournoise, il se cache. Il ne s'annonce pas, ni avant ni après. Et même quand il a posé l'arc, il ne recule pas pour dire, je l'ai fait. Pendant que les gens dormaient. Cette heure, ce n'est pas un hasard. C'est le sujet de la réflexion. Pour que je puisse déranger, faire du mal le plus, j'aimerais le faire pendant qu'ils dorment. Deuxièmement, c'est qu'il s'aime. Il ne s'aime pas n'importe quoi. Il s'aime livré. Un choix délibéré. Un choix réfléchi. Un choix fait avec dessein. Livré, c'est un grain quand il est semé. Les 3/4 du temps de la germination et de la croissance, il n'y a pas de différence avec le blé. C'est seulement quand les premiers épis commencent à sortir et les premiers bourgeons qui vont montrer que des fruits vont sortir, c'est à ce moment-là que l'on commence à se prendre conscience qu'il y a la différence entre les deux. Il veut déranger le blé, il veut déranger le travail du blé, mais il dit, pour que mon action soit efficace, j'aimerais amener les faux, mais les faux ayant l'air d'être du vrai. Il aurait pu prendre quelque chose, dès le départ on aurait décelé, on aurait pu enlever cela, il dit, je mettrai quelque chose qui va prêter à confusion. L'ivraie, quand il commence à produire l'épi, qui fera plus tard les grains, produit quelque sorte un fruit qui est de petite taille, mais de couleur noirâtre. Mais par contre, le blé produit presque les mêmes genres de fruits, mais de couleur blanchâtre. Mais comme je l'ai dit au départ, même à la croissance, on a difficile à distinguer l'un de l'autre. Il est réfléchi. Troisième chose qui montre sa réflexion, c'est les où il sème. Souvent nous lisons cela et nous passons rapidement, mais le verset 25 dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il s'éma délivré parmi les blés. C'est que le passage veut dire que les champs, il était large, et même il semble les Israélites à l'époque, ils avaient dans les champs une partie qu'ils laissaient. Il aurait pu aller s'aimer cet ivré dans la partie vide. Le fait d'enlever ça aurait été facile. Il dit, je vais compliquer. Il y a le blé ici, il y a un autre blé là, il dit, il vient entre les deux, il sème. Parmi, il saute, il dit, je mets là, je mets là aussi, je place là, parmi. Réfléchi, intelligent, mais dans le mal, il veut mélanger, il veut faire croire, de telle sorte qu'il va compliquer le travail. Quand plus tard on va se rendre compte que ce qui est mal est là, on ne saura comment réagir. Donc troisièmement, je parlais de cet ennemi, et je disais qu'il y a un ennemi et un ennemi qui est réfléchi. Mais quatrième chose qui revient dans cette parabole, c'est que l'œuvre de cet ennemi n'a pas été visible du coup, ou surtout au départ. Les versets 26 et 27 disent, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Ils n'ont pas su quand l'ivraie a été semée. Ils ont découvert les effets, les résultats d'un travail fait en amont. Il s'est passé un temps entre le moment où l'ennemi est venu jeter la mauvaise semence et le temps où la mauvaise semence a été découverte. L'on a cru au départ à l'unicité et en l'uniformité des plantes. On a cru qu'on avait les mêmes plantes jusqu'à ce que l'on se rende compte à un moment, quand les épis ont commencé à sortir, que c'était différent. J'aime quand Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les royaumes des cieux. J'aime encore quand dans Matthieu chapitre 7, verset 15 et puis verset 20, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui dans la moisson, vous trouvez tous presque l'évangile. Et là, j'aimerais surtout arrêter un peu les jeunes filles et les femmes. Des fois, beaucoup de naïveté. À la recherche de la solution. À la recherche de telles choses. Et les voilà qui se retrouvent entre les mains. Permettez-moi d'utiliser le terme, il est peut-être fort, mais je l'utilise, charlatan. Qui va vous dire, pour votre problème, comment ils appellent ça? Il faudra faire la prière de quoi? Bouche contre bouche. La prière d'Élysée. Ma soeur, problème, nous sommes à niveau, il faut faire bouche contre bouche. Poitrine contre. J'ai entendu une jeune femme qui est venue me dire qu'elle avait un problème de conception. Un homme est allé lui dire, moi, J'ai la semence originelle qui a la capacité de corriger. Si tu t'attaches à moi, cette semence va aller, elle va nettoyer. Et puis après, tout va marcher. Ah, des fois, quand les gens veulent la solution, ils sont prêts à tout. Des fois, je comprends cette douleur. La Bible dit l'oppression rend insensé même les sages. Mais je n'approuve pas qu'il faut coûte que coûte avoir une solution de n'importe quelle manière. C'est pour cela aujourd'hui, il y a du n'importe quoi qui s'est fait au nom de l'Évangile. Pas visible au départ. Tous parlent de Christ. Tous prêchent Christ. Tous disent qu'ils font des choses au nom de Christ. Mais le verset 27 nous montre la surprise à un moment. C'est le moment où les premiers grains commencent à sortir. La Bible dit, les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Étonnement, déception, incompréhension, surprise. Ce qu'ils veulent dire, c'est inconcevable. C'est inattendu. D'où cela vient? Nous n'attendions pas cela. Ah, ne soyez pas étonnés que nous puissions voir de plus en plus de surprises. La cinquième chose que j'aime dans cette parabole et que nous retrouvons dans la réponse du maître au verset 28. Si les autres n'ont pas su l'origine délivrée, l'origine du mal, les maîtres n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Du coup, il a connu l'origine de cette autre sorte de plante. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Il est habitué, il connaît ce qui est vrai. Mais il connaît aussi les modes de fonctionnement. Il connaît comment son ennemi travaille. Il connaît comment son ennemi fonctionne. Il dit ça, c'est un ennemi. Il avait dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que égorger, détruire et dérober. Il dit ça, je vois sa signature. Je vois ses traces. Un peu comme toutes sortes d'investigateurs aujourd'hui, quand ils font des investigations, ils peuvent découvrir ça, c'est la signature de tel. Cet homme, quand il a étranglé, il a tendance à mordre ici. Non, ça ne peut qu'être lui. Et le Seigneur connaît le mode de fonctionnement de l'ennemi. Et du coup, il dit, il n'y a pas à réfléchir. Ça, c'est lui. Mais il y a la sixième des choses, c'est la réaction spontanée. Et même que je peux dire normale, des serviteurs qui veulent une solution immédiate et rapide. Au verset 27, ils disent, d'où vient donc qu'il y a délivré? Le Seigneur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais écoutez la deuxième partie du verset 28, les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il y a deux choses que l'on peut voir dans cette phrase que les serviteurs disent. La première des choses, elle est positive, c'est la dépendance. Ils auraient pu aller poser cet acte par eux-mêmes et venir informer. Mais ils dépendent du maître. Ils veulent lui dire, nous avons une initiative. Nous voulons faire quelque chose, mais nous allons la faire cette chose si toi tu permets. Veux-tu que nous allions? Les champs n'est pas en nous. Et même en plus, c'est toi qui as sémé. C'est vrai, il y a un corps étranger. C'est vrai, nous avons une initiative. Seigneur, donne-nous des gens qui savent dépendre. Donne-nous des gens qui savent rester à leur place. Donne-nous des gens qui ne outrepassent pas leur responsabilité. Donne-nous des enfants qui restent enfants. Qui ne viennent pas informer les parents. Maman, Kouluranga et Naoula, Leonanda Kouté. Est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que tu permets? Donc, première chose positive, c'est cette dépendance. Mais deuxième chose négative, on voit c'est le fruit de la culpabilité. Pourquoi? Parce que la garde du champ était leur responsabilité. Ils se sont rendus compte que c'est parce qu'ils dormaient. C'est parce qu'ils n'ont pas su faire leur travail que quelque chose est arrivé. Et ils veulent se racheter rapidement. Donne-nous la possibilité de corriger ce que nous n'avons pas pu faire. Donne-nous la possibilité d'ôter les conséquences de notre manquement. J'ai dit leur réaction est normale, spontanée. Mais ce qu'ils proposent, au-delà de l'explication que Christ va donner plus tard et que nous allons voir, montre aussi les sentiments des vrais croyants, attachés à Dieu, et qui côtoient la fausseté, la duplicité et qui en souffrent. Ils ont les ailes et ils ont de l'enthousiasme. Dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8, parlant de Lot, la Bible dit, il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. La Bible dit, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur cause, œuvre plutôt criminelle. Comment ne pas chercher des solutions rapides quand on entend des choses? Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Ça vous dérange. Dans Philippiens chapitre 3, verset 2, Paul parle des faux circoncis. C'est-à-dire, ils ont l'extérieur, mais pas la réalité. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, Paul parle aussi des faux frères. Toujours 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, parlant d'un groupe de gens, l'apôtre Paul déclare qu'ils sont des faux apôtres. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, comment ne pas souffrir et comment ne pas vouloir apporter des solutions rapides quand on voit des choses comme ça? Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et même une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Waouh! Et il va plus loin. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il semble que quelqu'un, sa mère était décédée, son père s'est remarié, et sûrement cette femme devait être jeune. Mais derrière le dos de papa, il est devenu le concurrent de papa. Mais en même temps, il vient à l'église. Alléluia! Et Paul dit, ces choses, vous les vivez. Il y a des choses qui ne peuvent nous laisser indifférents. Dans le psaume 119, au verset 36, les psalmistes disent, mes yeux versent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Il y a une souffrance attachée à voir des choses qui n'auraient pas dû être, des choses qui n'auraient pas dû être nommées. Plus loin, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 16, nous voyons la réaction de l'apôtre Paul quand il est à Athènes. La Bible dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sent au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. On ne peut rester indifférent quand on entend certaines choses. Des gens qui viennent à l'église, des gens qui communient avec nous, des gens qui ont des responsabilités. Et on entend des choses. C'est dur quelquefois. C'est vrai, il y a notre part à faire. Mais laissons Dieu être Dieu. Veux-tu que nous puissions arracher cela? Veux-tu que nous puissions faire quelque chose? Septièmement, dans cette parabole, il y a la réaction du maître de la moisson. Merveilleuse réaction. Quand eux disent, veux-tu que nous allions arracher? Ils compatissent à son problème. Ils voient le mal. Ils veulent l'aider afin que le mal ne puisse pas être là. Je suis étonné par sa réponse au verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Et il ajoute au verset 30, laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Le maître de la moisson a une réaction étonnante et une réaction incompréhensible. Réaction qui même de prime abord peut décourager les zélés. Réaction même qui de prime abord peut amener les spirituels à dire, mais est-ce que ça vaut la peine de vouloir être différent? Et sa réaction, nous la voyons en trois points, dans trois mouvements. Premièrement, d'abord, il y a un refus catégorique. Non, je ne veux pas de cette action. Je ne veux pas de cette initiative. Non, je n'en veux pas. Non. Et deuxièmement, au-delà de la réponse subite non, il y a une explication. Voilà pourquoi je dis non. Il dit de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Ça j'aime. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire si la réaction des serviteurs n'avait qu'une seule base, l'émotion. Et combien nous avons des émotifs dans la maison de Dieu? Réaction émotive. La réaction du maître, il y a la réflexion. Elle voulait une solution, mais une solution attachée seulement à l'émotion. Et ça, c'est le propre des femmes. Il y a un problème. Tout que n'égare tout et béba et béba. Maman Fanda Kimia. Quand j'étais petit, là où j'ai grandi à Bandal, j'ai assisté un jour à un scandale. Les femmes. On veut lui dire, non, maman Kabeya, lobi boye. On n'a même pas encore filé. Les familles Kabeya, il y en avait deux. Il y avait Kabeya Lumpungu et Kabeya Chilombo. On n'avait même pas filé. Maman Kabeya, lobi boye. Mais elle est allée chez la mauvaise maman Kabeya. Elle est arrivée, elle a commencé. Yo, maman Kabeya, yo. Et quand elle parlait, la fille est venue à l'oreille. Et on a vu combien les volcans se calmaient. Maman, l'imbistangaï. Dis à ton voisin, gère tes émotions. Gazara moulangia pembe, gasuka yesa lokola mukusa febi makaka. Naboy na bel estomac mama, naboy. Naboy ba tension febi ma. Que Dieu nous donne aussi des hommes qui savent se maîtriser. Cette femme manque de maîtrise. Sokoza mo bala tembe betanga yozo. Eh na samo bala tembe kamata. Le mo bala tembe se maîtrise. Alléluia. La vraie force, c'est avoir la force et la dominer. Mais les femmes, elles sont terribles. Hein? Et ça vous amène à un point. Donc, batanga mi bali, batanga peyo. Donc, même quand tu es calme, tu restes là. Tu commences à avoir la respiration comme si tu es sous l'eau. Un frère me disait, Ngaye, dosa kanda na ngaye banana likolo, negezo ningana. J'ai entendu un papa un jour dérangé par sa femme. Il dit, Roland, kanga ngaye na zoko babila, il nanga kalandambo tikala. Il dit, ndambo tikala, j'ai dit, ah bon, tikala ka. J'ai géré le problème avec un couple un jour au bureau. Et j'étais en train de parler. Cette femme, on dirait qu'elle avait un couteau sous la langue. Et l'homme m'a dit, pasteur, on a eu nous avons doux. Mais nous avons eu ce qui va pécher au monde, c'est que nous avons eu un bétail. Nous avons eu un homme. Mais mine de rien, cette femme, elle était terrible. La réaction des serviteurs n'avait que comme base l'émotion, mais celle du maître comme base la réflexion et la connaissance. Il ne voit pas seulement ce qu'il faut faire, mais il va au-delà. Il voit l'impact et les conséquences de ce qu'il va faire. Il dit, je veux d'une solution, mais j'aimerais voir quelles sont les conséquences attachées à la solution. Je veux d'une solution avec impact négatif zéro. Je veux d'une solution, mais je veux savoir la solution que je vais apporter. Quels sont les corollaires? Qu'est-ce qui peut arriver? J'ai beaucoup aimé ce terme utilisé quand j'étais à Nairobi et que je faisais ma formation théologique. Quand le mouvement de l'AFDEL voulait rentrer à Kinshasa, j'ai souvent entendu ces termes à la radio. Atterrissage en douceur. On disait, ils doivent rentrer. On doit renverser le mouvement en place. Mais voilà, Kinshasa est une agglomération, il y a tel nombre de personnes. Et plusieurs étudiants, plusieurs analystes ont dit, si la guerre éclate à Kinshasa, minimum on peut perdre entre 1 million et 2 millions. C'est vrai, la solution c'est de faire partir cet homme. Mais comment faire pour le faire partir sans qu'il y ait des dégâts en grand nombre? Donne-nous des gens qui anticipent. Donne-nous des gens qui réfléchissent. Elle m'a parlé comme ça. Si je réponds comme ça, ça va amener à où? On n'éteint pas le feu avec le feu. Comme les Kinois disent, « Bomangai, na bomayo. » Je connais un frère, lui m'a dit, « Quand ça bouge trop avec mon épouse, na kenra na sali nangai promenade. Na zo bete ma banga na zela. » Il me dit, « Bah, kouane, fa yana bete mbislam sousou. » Alléluia. La réflexion et la connaissance. Il dit, je connais comment fonctionne l'ivraie. Je connais jusqu'où les racines des livrées vont. En voulant sauver mon blé, je risque de perdre ce pourquoi je me suis investi. Je veux bien solutionner un problème, mais je ne veux pas d'une solution qui crée un problème plus grand que le problème initial. Combien de fois des solutions que nous présentons aggravent des problèmes. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui connaît. C'est pour cela que j'aime quand dans 2 Pierre chapitre 2 verset 3, l'apôtre Pierre dit, à cause de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, faites tous vos efforts pour adjoindre à votre foi la vertu. Mais il dit à la vertu, la connaissance. La connaissance va nous aider. Si je fais ça, ça va amener où? J'aimerais m'arrêter un moment pour parler sur un sujet important, comment résoudre les problèmes sur le chemin de la vie. Et c'est là le message, la leçon pratique. Là, j'aimerais dire, sur le chemin de la vie, nous aurons toutes sortes de problèmes, en couple, en famille, en amitié, à l'église, au travail, entre familles et même entre nations. Mais deuxièmement, le plus important n'est pas les problèmes, mais le plus important, c'est les genres de solutions que nous utilisons. Il y a des solutions qui éradiquent les problèmes initiaux totalement. Mais il y a des solutions qui aggravent les problèmes initiaux. Chaque fois avant de proposer une solution, je dois me dire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle solution? Quand les temps attachés à cette solution, quand est-ce que je dois la présenter? Il y a des bonnes remarques des fois qu'il faut faire en différé. Il y a des bonnes remarques qu'il faut faire, non pas quand il y a des gens. J'ai été blessé, il m'a blessé, elle m'a blessé. Je peux corriger, mais j'attendrai. Je souffre, mais c'est bon que ça puisse être fait plus tard. À un moment particulier, puis ça va passer. Mais aussi les comment. La méthodologie. Vous avez appris à savoir à qui vous avez affaire. Comment lui faire passer cette remarque. J'aime quand Proverbe 16, 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et le maître de la moisson a la réflexion. Il dit, je veux d'une solution, mais si j'utilise cette solution, je vais tout perdre. L'absence de la réflexion et la seule présence de l'émotion, c'est toujours dangereux. Mais il y a un autre piège aussi à éviter dans la prise des solutions, dans l'effort à trouver des solutions aux problèmes, c'est la précipitation. L'utilisation des solutions rapides et sans réflexion, ou mieux, sans réflexion profonde, il est quelquefois possible, et même des fois nécessaire, devant un problème de réagir vite. Mais quand vous réagissez vite, ayez l'assurance que vous réagissez vite et bien. Souvent, il est difficile d'associer les deux. Avoir une réaction rapide, et que cette réaction rapide soit aussi bonne. 3 fois sur 4, les réactions qui sont réfléchies sont les meilleures. Mais comme j'ai dit, il y a des problèmes pour lesquels des fois il faut la célérité. Mais quand il faut la célérité, prenez tant soit peu les temps qu'il faut pour lever une option. Combien la Bible est contre la précipitation. Proverbe 21, verset 5, dit « Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Dans Actes 19, au verset 36, un homme sage parlant à un groupe de gens émotifs, prêts à agir selon leurs émotions, il leur dit « Vous devez vous calmer. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, calme-toi. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 22, l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, n'impose pas les mains avec précipitation. La précipitation, elle est dangereuse. Mais après les refus catégoriques et l'explication, il y a une troisième chose que le maître de la moisson fait. Il propose la solution. Je ne dis pas une solution, il propose la solution. D'abord, il dit non, et puis il justifie le pourquoi. Et puis à la fin, il propose la solution. Et une solution, comme j'ai dit, qui peut faire souffrir les puristes, les émotifs, ceux qui veulent la solution rapide. Et cette solution est mentionnée au verset 30, il dit, laisse-les croître ensemble. Dites avec moi, laisse-les croître ensemble. Ah, vous savez, sur les chemins de la vie, quelquefois Dieu vous obligera à arroser l'ivraie que vous n'aimez pas. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Tu déranges mon blé. Tu l'étouffes. Les aura même maille. Maintenant, on va s'occuper de mon goulot. Laisse-les croître ensemble. Il y a des choses que nous n'aimons pas, mais que le Seigneur dit, laisse-les à côté. Il y a des choses que nous voulons déraciner, le Seigneur dit, laisse-les. Laisse-les croître ensemble. Vis avec. Tolère ça. Accepte ça. Tu n'approuves pas. Tu n'es pas totalement d'accord, mais laisse-les croître. Laisse-les cohabiter. Laisse le faux être à côté du vrai. Laisse l'indésirable être à côté du désirable. Laisse les vrais être à côté du faux. Le maître est fantastique. Il dit, accepte de souffrir encore un peu. Mais il dit, votre souffrance ne sera ni permanente ni éternelle. Et j'aime ce qu'il ajoute. Il dit, à l'époque de la moisson. C'est-à-dire, il y a un temps défini. Et ce que j'aime, quand il dit à l'époque de la moisson, vous savez, la solution ne dépend pas des livrets ou de la croissance des livrets. La solution dépend du blé. Quand il dit à l'époque de la moisson, il veut dire, je contrôlerai le blé. Quand le blé aura suffisamment mûri, je vais m'occuper. Et vous savez, ceux qui étudient les plantes, ils disent que l'ivraie, si on l'enlève, a une poudre. Quand cette poudre est lancée, quand ça se colle sur le blé devient amer. Il dit, en voulant trouver la solution, tu vas détruire. Mais il dit, quand cet ivraie a mûri, il semble tout se ferme. Et quand on enlève finalement cette poudre, ne s'envole pas. Nous sommes à l'équipe de Maïele. Seigneur, aide-moi quelquefois à te laisser être Dieu dans ma vie. J'aimerais dire ce qu'un homme de Dieu m'a dit un jour. Sur le chemin de la vie, devant quelques problèmes, des fois la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Bizarre, n'est-ce pas? Des fois, la meilleure des réactions, c'est de ne rien faire. Il s'appelait Saül. Il avait envoyé un message à l'homme de Dieu. Viens et prie pour nous avant que nous puissions aller combattre. Elle avait dit, il attendit 7 jours. Mais Samuel ne venait pas. Mais voilà, l'armée parlait de se disperser. Il dira plus tard, je me suis fait violence. Écoutez la tristesse du verset qui suit. Elle avait dit, à peine il achevait d'offrir, que Samuel arriva. S'il était qui nous dit, ce qui n'a zélaki. Ce qui n'a fandaki à mouki. Il y a des moments où la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. J'ai vu des fois Dieu solutionner des problèmes dans le silence. J'ai vu des fois des choses se soulever dans Kangé Motem. Nous avons mort à s'occuper, nous avons pu s'occuper d'Ango. Très bien. Il dit, un temps viendra, et un temps que j'ai choisi, où je dirais arracher d'abord l'ivraie, lier les en gerbe. Le message du Seigneur est clair. Il dit, j'aime trop mon blé. J'aime tellement ce blé. J'ai tellement dépensé pour que je ne veux pas les perdre. Et pour les protéger, je suis prêt à les laisser cohabiter avec quelque chose d'indésirable. Cette solution qu'il utilise, ce n'est pas ce qu'il veut, mais ce qu'il doit. Il aurait voulu que l'ivraie ne soit pas. Mais il s'est dit, je dois faire avec. Je n'aime pas l'ivraie, mais je suis bien obligé de les laisser à côté. J'aimerais, en terminant ce jour, dire aux croyants qui souffrent dans leur cœur de voir certaines choses se passer d'une certaine manière dans l'église ou dans le monde, que Dieu est le Dieu qui travaille. Dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 15, il est dit que la patience de Dieu est salut. Au verset 9 du même chapitre, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns les croient, mais il use des patiences envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. C'est son désir, c'est sa volonté. Mais comme je dis quelquefois, il laissera des choses qui ne doivent pas être restées ensemble. J'aimerais dire en terminant, Église, laissons Dieu être Dieu. Le mal sévit, mais Dieu a laissé qu'ils croissent ensemble parce qu'ils croient un jour que sa solution, la solution qui est la meilleure, va arriver. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'aimerais un moment nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais demander aux musiciens de monter, de s'élever. J'aimerais lancer trois appels rapidement avant que nous puissions prier. Le premier appel, c'est quelque chose qui s'est imposé dans mon cœur fortement depuis trois jours. Et encore ce matin, quand je priais, ça me revenait. Il y a ce matin, en ce lieu, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Mais c'est quelqu'un à une caractéristique principale que Dieu m'a montrée. Il a longtemps été en amitié avec quelqu'un qui, depuis quelques mois, a été radicalement changé. Radicalement changé. De telle sorte que, quand tu le vois, tu dis donc qu'il est possible de changer. Tu n'arrives pas à expliquer les changements qu'il y a dans la vie de cette personne. Tu te rends compte que quelque chose peut se passer. Tu l'en vis. Et tu viens même à cet endroit, à d'autres endroits de culte, mais tu n'arrives pas toi-même à te donner pleinement à Dieu. Souvent dans ton fort intérieur, tu dis, j'aimerais avoir la liberté que lui a. J'aimerais avoir la paix que j'ai trouvée qu'il a. Autrefois, nous tous, nous étions troublés, mais je l'ai sais parce que je l'ai connu. Lui, désormais, il n'est plus troublé. J'aimerais avoir la richesse qu'il a. Homme, femme, Dieu t'a amené en ces jours, en ces lieux, pour que tu entendes cette parole. C'est que l'autre est devenu. Tu peux aussi le devenir. À toi, je demanderai un effort particulier. Si tu veux refuser à cause du qu'on dira-t-on, à cause de celui ou celle qui est à tes côtés, moi, j'aurais fait ma part. Mais Dieu m'a dit, te concernant toi, quand les chants seront en train de jouer, sors des rangs, viens te mettre ici à genoux. Car Dieu veut faire de ces jours les premiers jours de tous les restes de ta vie. Ce qu'il a fait avec l'autre, il peut le faire avec toi. Du reste, quand je suis en train de parler, ton cœur est en train de battre à la chamade, car c'est ton jour. C'est ton D-Day, disent les anglophones. C'est ton jour. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut donner un nouveau départ, un virage tout nouveau à votre vie. Et Dieu s'est servi de la vie de l'autre, de son modèle, de son exemple, d'un matériel didactique pour vous toucher, pour parler à votre cœur. Venez, car il veut donner à votre vie un nouveau départ. Le deuxième appel que je me relançais, il y a plusieurs qui sont devant un problème. Et vous voulez lever des options. Mais à lui de la parole de Dieu ce matin, vous voulez dire, je ne veux plus me précipiter. Je veux mettre la réflexion dans la solution de mes problèmes. Et vous voulez dire, pasteur, prie pour moi. J'ai un problème en famille, en couple. J'ai un problème à l'église. J'ai un problème au travail. J'ai un problème. Mais je prie que Dieu m'aide. Je veux plus simplement être émotif. Je veux au-delà de l'émotion mettre la connaissance et la réflexion. Prie pour moi. À vous aussi, je vous demanderai de vous lever. Et je prierai avec vous. Et troisième appel que je me relançais. Il y a quelqu'un ici qui veut dire, pasteur, prie pour moi. Je suis un peu comme ses serviteurs. Je ne supporte pas voir les mal. Je me présente souvent en justice qui est un correcteur. J'aime les solutions rapides. Et souvent dans ces solutions rapides, je fais mal. J'ai souvent arraché et les blés et livré en voulant corriger. J'ai souvent détruit les nécessaires en voulant enlever ce qui n'était pas nécessaire. Je me répands ce matin et je me redis plus de sagesse, plus de connaissances. Alléluia.
Na kukima wapi Soki na kanisi bomo inanga Mabenga inasale liokolo Eluke linae makambo Na zangi kimia he sendo nanga Bongwa ni mawa Papa yolimbi sanga Papa yodambenga Nana kokende paya papa Nana konti mama benanga Nana koloba na ye papa Limi sa ma benango Nara koloba na ye lisusu Na imoko na kokite Papa si ma bombo inanga Limi sa ma benango Nara kokene
be na ga na na koloba na ye papa limi sa ma be na ga na na koloba na ye susu na iboko na kokite papa sima bomoi na ga limi sa ma be na ga.
Seigneur, je viens ce matin présenter mon frère et ma soeur qui est devant, qui a compris et qui a pris l'engagement de te suivre. Seigneur, toi tu ne jettes pas ce qui s'approche de toi. Cette matinée est une matinée de délivrance pour mon frère, pour ma soeur. Nous voulons présenter nos bien-aimés entre tes mains, Père. Change leur vie, transforme, car c'est possible. Tu as dit à la croix, tout est possible. Et ce matin, nous croyons que tu sèmes ta sémence dans la vie de mon frère. Merci, Seigneur. Merci parce que tu fais de mon frère une nouvelle créature, de ma soeur une nouvelle créature. Commence avec toi une nouvelle vie. Merci pour ces choses. J'ai prié avec mon frère qui s'est levé, qui a besoin encore de la réflexion pour poser cet acte. Comme la parole le dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et Salomon a prié pour demander la sagesse, l'intelligence qui vient de toi. Ce matin, nous prions, Seigneur, que tu donnes la sagesse, que tu donnes l'intelligence, de manière à ce que l'acte en question soit réellement ce qui convient. Bénis mon frère, parce qu'à la fin, bénis ma soeur, parce qu'à la fin, il dira, oui, je prie une bonne décision. Merci parce que tu le fais avec l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu es en train de réaliser quelque chose dans sa vie. Oh Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci parce que tu veux que nous ne soyons pas des justiciers, mais que tu veux que nous puissions compter sur toi. Nous voulons te laisser travailler. Bénis ton peuple ce matin. En sortant de ce lieu, que la semaine qui est devant nous soit une semaine glorieuse. Je le déclare au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Et que cette parole soit un dépôt qui restera à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.